Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est vous Clément Beaune. Bonjour. Vous êtes le ministre délégué au transport. On va d'abord essayer de comprendre les détails de cette annonce hier. Emmanuel Macron qui a annoncé le lancement de RER dans des grandes villes de France. Écoutez.
C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les 10 principales villes françaises, où il y a thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain. Et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie.
Écologie, économie, qualité de vie, on met tout ça dans un shaker, on fabrique des RER. Quelle ville d'abord? Est-ce que vous avez déjà un peu une idée ou est-ce que pour l'instant c'est encore flou?
Alors d'abord, c'est une grande ambition que nous avons pris dans la République. On a besoin, on a raison d'investir dans les transports publics. C'est une ambition qui est au fond un grand projet pour le pays, qui est un peu comparable à ce qui avait été lancé pour le Grand Paris il y a une dizaine d'années, qu'on est en train de réaliser. Dans le budget cette année, on a beaucoup dit, il manque des choses, etc. Il y a 1 milliard d'euros presque pour financer le Grand Paris. Et comme l'a dit le Président, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que la région parisienne, même s'il y a des grands besoins, qu'on réserve en quelque sorte ces liaisons entre les quartiers des banlieues, les quartiers des grandes villes, à la région parisienne. Donc on veut le faire dans une dizaine de grandes villes. Ce sera affiné, il n'y a pas une liste qui est encore déterminée. Mais il y a des projets qui ont déjà démarré ces derniers mois, parfois ces dernières années.
À Lille, par exemple ?
À Lille, à Strasbourg. On voit à Strasbourg qu'il y a un projet qui est très avancé, qui est soutenu par l'État, par la région, par la métropole de Strasbourg, qui sera lancé d'ailleurs dans les prochaines semaines, j'y participerai.
Mais vous vous fixez quoi comme délai? Vous vous fixez quoi comme horizon?
Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut préciser combien ça coûte, les tracés, les villes qui seront prêtes en priorité, qui seront soutenues aussi par l'État. Il y a un rapport qui est en cours, qu'on appelle le Conseil d'orientation des infrastructures. C'est présidé par un parlementaire, il y a tous les partis politiques qui y participent, et il rendra ses travaux avant Noël. Donc on aura, notamment sur ces RER métropolitains, ces réseaux dans les métropoles, des informations plus précises qui seront travaillées par l'administration et puis par les politiques. Et puis ensuite, en début d'année, sous l'autorité de la Première Ministre, on définira des calendriers et des financements plus précis. C'est une dizaine de métropoles, le Président a dit 10, donc il n'y a pas encore une fois des listes très déterminées, mais les projets sont déjà relativement mûrs. J'ai évoqué Strasbourg, vous avez mentionné Lille, il y a Bordeaux, il y a Toulouse par exemple aussi.
Alors évidemment, on a envie que de ça, hein. Je veux dire, on se dit le retour d'une forme de planification, d'aménagement du territoire, au moment où on nous dit qu'il faut arrêter la voiture, c'est vrai que c'est assez cohérent de proposer des alternatives. Mais au fond, créer des nouveaux RER alors que les RER existants fonctionnent rarement très bien, ça paraît un petit peu mettre la charrue avant les bœufs, non?
Mais vous avez raison, mais les transports, c'est investir dans l'avenir, et il faut le dire honnêtement à ceux qui nous écoutent, quand on lance un projet d'investissement dans les transports, on le voit avec le Grand Paris que j'évoquais, qui a été lancé il y a presque une décennie, ça met énormément de temps, surtout les projets les plus ambitieux. C'est pour ça que ces fameux RER métropolitains, c'est un horizon d'une décennie. Il y en a qui sont prêts plus vite comme Strasbourg, d'autres qui mettront plus longtemps. Et puis on doit changer ou améliorer, il n'y a pas de baguette magique, mais il y a du volontarisme, le quotidien. Et par exemple, en Ile-de-France, je sais que c'est difficile en ce moment. Dans les Hauts-de-France, je sais qu'avec les TER, c'est difficile en ce moment. Dans les Hauts-de-France, moi j'ai demandé à la SNCF un plan pour recruter des conducteurs. On fait appel par exemple à des jeunes retraités pour qu'on comble les manques, il y a des pénuries aujourd'hui, le plus vite possible. En Ile-de-France, on travaille avec la région, la RATP.
Est-ce que vous avez augmenté les salaires? C'est-à-dire qu'en fait, on n'attrape pas les mouches avec du nez.
Vous avez raison.
Où il faut, c'est très bien de dire on va embaucher, mais si vous n'augmentez pas les salaires, c'est-à-dire si la fiche de poste n'est pas plus attractive, vous allez continuer à avoir des manques de chauffeurs partout en France.
Mais je vous prends deux exemples. À la SNCF, il y a eu, dès que je suis arrivé, c'était engagé des négociations salariales cet été, qui ont permis des hausses de rémunération d'environ 6%. C'était nécessaire, le dialogue social a fonctionné. Ça fait aussi partie, en effet, de l'attractivité des métiers. Il n'y a pas que ça. Parce qu'il faut être honnête, quand vous accélérez les recrutements, même quand vous payez mieux les gens et que vous les attirez davantage, bah ça met 12 à 18 mois, parce qu'il est hors de question de faire conduire un métro, un bus ou un RER par des personnes qui ne sont pas qualifiées.
Et puis, il y a aussi cette question aussi de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on parle de la galère dans les transports, bah si on en parle au maire, ils disent c'est l'État. Si on en parle à l'État, on nous dit bah non, c'est la collectivité. C'est jamais le maire, c'est plutôt la région. Là, pour l'Île-de-France, on a quand même l'impression que c'est la guéguerre aussi entre Anne Hidalgo qui dit bah non, c'est pas moi. Quand on dit que c'est la RATP dit bah non, c'est pas nous.
Oui.
C'est Valérie Pécresse. Enfin, je veux dire, il y a quand même aussi un problème à un moment de se parler, se mettre autour de la table et prendre ses responsabilités.
Vous avez complètement raison. Je pense que c'est quand même bien de définir les responsabilités. Moi, c'est ce que j'ai fait. En Ile-de-France, il se trouve que c'est la région. C'est pas une stigmatisation, c'est une réalité. qui organise les transports, qui en fixe le prix. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler ensemble. Moi, je travaille avec Valérie Pécresse au quotidien. J'ai reçu Jean Castex, qui dirige la RATP, dès jeudi, pour discuter des difficultés sociales, des difficultés de transport. Le but, ce n'est pas de se renvoyer une patate chaude. Le but, c'est de trouver des solutions le plus vite possible. Recrutement et investissement pour l'avenir.
Et on a évoqué la question du coût de l'infrastructure, mais il y a aussi le coût pour l'usager. Au moment où vous nous annoncez ces RER dans les 10 villes de France, on apprend que le ticket de métro parisien, hein, pour se déplacer en Île-de-France, passerait de 1,90€ à 2,30€.
Alors l'information qui a été relayée, je crois que ce sont des documents internes à Île-de-France Mobilité, qui est la
mais
région
Île-de-France. Mais vous, le ministre des Transports, vous avez le moyen de dire oui ou non? Est-ce que vous allez donner le feu vert à une telle augmentation?
Je vais être très clair, c'est pas le ministère des Transports et c'est pas l'État, c'est une réalité qui fixe le prix des transports à Marseille, à Paris ou ailleurs. On fixe le prix avec la SNCF, les TGV, les intercités. Si on peut discuter avec la région, moi je l'ai dit, parce qu'il faut que chacun assume ses responsabilités et puis ensuite travaille ensemble. Il n'y a aucune justification à ce qu'on passe le Navigo, par exemple, à 100€ et qu'on ait des augmentations de 25 ou 30%. Je n'en vois pas de justification et tout le monde est d'accord pour dire que ça n'est pas tenable et que ça n'est pas le bon sens quand on veut justement investir.
C'est-à-dire que vous pouvez pas d'un côté dire aux Français qu'il faut arrêter de prendre la voiture,
mais c'est
prendre
pour
les transports,
ça,
et que les transports, un, fonctionnent mal et deux, soient plus chers. Ça, c'est pas du tout logique.
C'est pour ça qu'on incite la RATP très fortement à assurer les recrutements le plus vite possible. C'est pour ça que dans d'autres régions, c'est la SNCF avec les TER, on les soutient aussi. J'ai demandé ce plan d'accélération. L'État prend ses responsabilités. Et en Île-de-France, puisque je sais que ça concerne beaucoup de ceux qui nous écoutent, on va continuer à travailler avec la région.
Elle vous donne de l'argent, Valérie Pécresse. Elle dit qu'elle a besoin de sous et qu'elle a besoin que l'État
non, je vais vous dire, c'est très simple, c'est responsabilité et travail commun. Responsabilité, c'est de dire qui fait quoi. Il faut quand même le dire. On a voulu décentraliser les transports. C'est normal que chacun assume ses responsabilités, en l'occurrence la région.
Mais vous ne mettrez pas les sous?
Si on peut discuter de soutien et d'aide à la région Île-de-France. On a une discussion en cours. C'est pour ça que moi, j'évite de mettre la charrue avant les bœufs. On a justement une discussion qui est encore en cours. Le budget de la région, je crois qu'il sera voté d'ici une quinzaine de jours. Et donc, ces jours-ci, on peut l'utiliser pour éviter justement que les usagers paye une situation intenable. Je crois que ça n'est profitable pour personne.
Vous avez rencontré Valérie Pécresse?
J'ai déjà rencontré plusieurs fois. Je vais continuer à discuter, bien sûr, ces jours-ci avec Valérie.
Mais il n'y a rien de prévu particulièrement, quoi, quand vous avez vu.
Mais ce sera début décembre. Écoutez, les documents internes à la région, je n'ai pas à les commenter. Ce que je dis simplement, c'est un, on travaille ensemble. Deux, c'est la région qui doit ensuite fixer les tarifs en responsabilité. Et trois, je ne souhaite pas, en effet, qu'on ait des hausses de cette nature. Et on va tout faire pour les éviter.
Charles, il y a une question des auditeurs.
Oui, sur Direct Studio, Corinne qui nous dit « Moi, j'habite dans les Alpes de Haute-Provence. J'entends encore qu'on va dépenser des dizaines de milliards pour les grandes villes. Mais nous, à la campagne, on voit juste les petites gares qui ferment et on voit de moins en moins de trains passer. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ?»
Non, vous avez raison, il y a un sujet de justice. D'abord, je le précise, les RER métropolitains, je sais que c'est parfois un peu confus, c'est des réseaux dans les grandes métropoles qui peuvent aller chercher assez loin, dans des quartiers, dans des banlieues, dans des zones périurbaines qui sont
parfois à 20, 30 kilomètres. Ça ira beaucoup plus loin que d'aller un tram ou un métro.
Exactement. Quand vous voyez par exemple ce qui se passe dans le Grand Paris, hein, c'est pas que pour Paris, mais c'est en cours de développement, c'est parfois justement donner accès à un département comme la Seine-et-Marne.
Mais encore une dit, bon, les
alors, et puis à côté de ça, on fait un effort, le président disait un mot hier, sur les petites lignes et les petites gares. C'est le gouvernement de Jean Castex qui avait réinvesti de manière nécessaire, historique, dans le train de nuit, dans les petites lignes. Il y a déjà 6000 kilomètres sur lesquels aujourd'hui, dans le budget de mon ministère, on a mis les financements. Ça se déploie sur plusieurs années. On signe avec les régions, elles identifient les petites lignes et on finance. Et le président l'a rappelé hier, notre objectif, c'est d'aller jusqu'à 9000 kilomètres de petites lignes qu'on sauve ou qu'on rouvre. Ça mettra un petit peu de temps, mais il y en a qu'on a commencé à rouvrir. Je pense avec la région Occitanie, par exemple, ces derniers mois. On va continuer cet effort. Donc, je n'oppose pas l'un à l'autre. On a un effort d'investissement massif à faire dans les transports
mais
publics et dans le ferroviaire.
Mais pour restaurer les lignes qui existent, on le sait, par exemple, dans le Pas-de-Calais, en ce moment, c'est une galère sans nom.
Oui, je l'ai.
On a de nombreux témoignages qui nous le disent, des trains qui sont annulés, des délais interminables. Est-ce que la situation est en train de se régler?
Oui, mais ça prend un peu de temps, mais je le dis très franchement.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, je vais vous dire très honnêtement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une mauvaise prévision des choses. Je le regrette et je l'ai dénoncé. La SNCF et la région ont fait une discussion et ça a été mal fait. Je cherche pas à dire qui est responsable de quoi, c'est une réalité pour les gens aujourd'hui. Et donc, il y a eu pas assez de recrutement de conducteurs, pour être clair. Et puis, en plus, il y a des pénuries parce que c'est un métier en tension. Donc, moi, j'ai demandé un plan exceptionnel qu'on n'a jamais fait pour qu'on soit créatif, qu'on trouve des solutions. On dise pas juste aux gens, bah, tant pis.
Donc, c'est
et donc, par exemple, il y a eu déjà des trains, il y a déjà des conducteurs qui ont été réaffectés dans les Hauts-de-France il y a quelques jours. Il y aura de nouveaux trains qui seront remis en place d'ici Noël. Et je l'ai demandé à la SNCF d'aller faire d'aller chercher toutes les solutions. Je le disais, par exemple, chercher des jeunes retraités. Ils sont capables de conduire un train, ils peuvent être motivés, on peut les payer. Et ça peut être une
heureusement
solution.
Qu'ils sont là, les retraités, parce que franchement, mais, on a l'impression que là, on a besoin de retraités pour les profs.
Mais vous savez, Pauline de Meyerme, c'est aussi parfois la rançon, si je puis dire, de la baisse du chômage, c'est qu'il y a des métiers en tension. Moi, quand je suis arrivé, c'était les transports scolaires. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas de galère pour les parents à la rentrée et qu'à part quelques très rares exceptions, on ait les transports scolaires avec ce type de solution. Et bien, pour les TER, je m'engage aussi dans les Hauts-de-France à ce qu'on résolve le problème le plus vite possible. C'est dur, parce qu'on ne va pas transiger sur la sécurité, la formation, mais on va faire quelque chose d'exceptionnel et recruter notamment ces jeunes retraités.
Merci beaucoup Clément Beaune d'être venu dans ce studio ce matin après cette annonce donc d'Emmanuel Macron hier qui annonce donc ces 10 RER dans les grandes métropoles de France. Je rappelle que vous êtes le ministre des Transports.